France Inter.
Je sais pas ce que je fais quand je m'habille. Est-ce que je me cache? Est-ce que je me montre? Est-ce que je me couvre? Juste ce qu'il faut, mais il faut quoi? Oui, que veut donc voir l'autre de moi? Qu'est-ce que je lui donne et qu'est-ce que je garde? Sur quoi je mens? Là, je fais semblant. Je mets des talons, je le fais pour quoi? J'ai mal, je les garde, je le fais pour qui? Je sais pas ce que je fais quand je choisis un vêtement. Je me choisis moi ou ce que l'autre attend de moi? Je me signale et je suis là, je suis comme ça, à cet endroit, je suis comme toi. J'appartiens au même groupe que toi. Ou alors non, j'appartiens pas et je transgresse, je traverse, je vole dans le vestiaire de l'autre. Je suis plus lui, je ne suis plus moi. Je suis un homme qui porte une robe, je suis une femme, la robe le dit. Alors une femme dans un corps d'homme, je suis, je sais pas. J'aimerais qu'on me fasse du sur-mesure, j'aimerais pouvoir raser les murs, j'aimerais qu'on décide à ma place, c'est l'uniforme obligatoire, ça évite toujours de penser. Et puis comme ça, il n'y a plus d'histoire, le corps c'est sûr, l'imaginaire et les lacets serrés, serrés, un jour ils finissent par craquer. Je sais pas ce que je fais quand je m'habille, par la tête, le cœur ou le corps, j'hésite, je me demande encore, ce que je sais c'est que j'aime ça.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Thermostat au feu, la fashionista, la butte en la vedette. Va chercher les jerrycans, on s'en va brûler la Suzanne, ça va être notre fête. Brûlez, brûlez, brûlez-moi. Brûlez, brûlez, brûlez-moi. Pour ce que je touchais du doigt, et parce que j'ai jamais eu froid, brûlez-moi pour tout ce que je faisais.
Bonsoir, bienvenue Romain Bro.
Bonsoir Julia.
Brûlez-moi, comme on brûle une idole ou comme on brûle une sorcière?
Les deux en général. Brûler, enfin essayez de me brûler en tout cas. Peut-être que vous y arriverez un jour.
Vous êtes sorcière, vous êtes fée, vous êtes bourgeoise, vous êtes actrice, vous êtes vous, c'est-à-dire tout en ce moment sur la scène du cabaret de Madame Arthur. Un one woman show, vous dites?
Bah, j'aime bien, je trouve que ça me va bien, je me sens pas du tout homme sur scène quand je fais mon spectacle, donc oui, c'est un one woman show.
Vous vous racontez, vous vous transformez de séquence en séquence, vous vous habillez, vous déshabillez, vous vous mettez à nu en chantant, en dansant, en jouant. Artiste protéiforme, vous n'aimez rien mieux que de nous échapper, je crois, vous cultivez du moins une forme de fluidité, mais au fond, pourquoi ?
Parce que la fluidité, on n'arrive pas à l'attraper, donc c'est aussi une recherche de liberté, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la vapeur, le vent, l'air, l'eau, c'est ce que j'aime, c'est cette fluidité, j'ai vraiment envie de la cultiver jusqu'au plus haut point.
Et à tous les niveaux, c'est-à-dire personnel, professionnel, c'est-à-dire aussi bien l'apparence, le vêtement que à l'intérieur de vous-même, c'est vraiment une façon d'être au monde, cette fluidité?
Ouais, je pense que c'est vraiment aussi être une vérité avec soi-même, et pour moi c'est important de réfléchir les choses de manière très spontanée et de faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire.
Il n'y a rien de plus beau que de se perdre dans le genre, nous avez-vous écrit, et de troubler les personnes en face de moi. Alors on va s'y perdre avec vous dans le genre. Prenez ce miroir, Romain, s'il vous plaît.
Il y a un trombone sur le miroir, c'est normal?
Alors tout est possible.
D'accord, je
vous le rends. Parfois il y a des traces de doigts, là il n'y a qu'un trombone, donc tout va bien. Prenez le temps d'observer votre reflet. Regardez-vous. Dites-nous ce qui vous passe par l'esprit quand vous vous voyez.
Ah bah je me sens content, ça fait plaisir. Je me dis que j'aurais jamais dû mettre cette chemise avec ce pull, mais que c'est pas grave, j'avais envie de couleur chaude parce qu'aujourd'hui il pleut. Donc
alors on est sur un pull rose et sur une chemise rouge.
Rouge avec des imprimés de fleurs. J'ai la peau qui brille et ça c'est bien, ça veut dire qu'elle est en bonne santé. L'éclairage est affreux. J'ai quelques cheveux blancs.
Oui, ça je suis d'accord avec vous. On n'est pas bon sur l'éclairage du tout.
Je vois ce que je vois tous les jours.
Des boucles d'oreilles qui vous viennent d'où?
C'est un ami qui s'appelle Damien qui m'a fait un joli cadeau. Et c'est du cristal Swarovski en forme de carré.
Joli cadeau. Vous sortez jamais sans vos boucles d'oreilles?
Jamais. C'est très rare qu'on me voit sans boucles d'oreilles. Ouais, j'adore ça.
Je suis tellement d'accord avec vous. Vous avez aussi de sublimes cheveux roux qui vous courent jusque dans le milieu du dos. Qu'est-ce qu'ils représentent, vos cheveux, pour vous?
Ah, mes cheveux, ils me fascinent. Je me lasse jamais de regarder mes cheveux parce qu'ils sont jamais pareils tous les jours, selon l'humidité, selon la façon dont ils sont sales ou propres. Ils me font rire, ils changent de couleur avec le temps. C'est un peu la...
Vous les avez toujours eu longs comme ça?
Comme ça fait bientôt 10 ans que j'ai les cheveux très longs comme ça.
Ouais. Et là aussi, ça provoque le trouble chez l'autre. C'est quelque chose que vous,
vous aimez provoquer. J'adore. Ouais. De dos, c'est madame. De devant, on ne sait plus. De profil, on ne sait pas quoi dire. Enfin, moi, j'adore les gens qui sont complètement perdus, qui ne savent pas quoi dire. Et je leur dis à chaque fois, mais pourquoi est-ce que vous devez dire quelque chose? On n'est pas obligé de se définir à chaque seconde de la journée.
Vous êtes fou de mode. Passé par la Royal Academy d'Anvers, vous avez commencé par le vêtement, l'imaginer, le dessiner, le tailler. Aujourd'hui, est-ce que vous savez pourquoi vous vous habillez? Pour dire ou pour cacher?
Aujourd'hui, je m'habille parce que pour moi, le vêtement, c'est comme de la peinture. C'est des couleurs, c'est des textures. J'ai toujours voulu être peintre quand j'étais enfant. Et dès que j'ai des pigments ou une crème, j'adore me maquiller, j'adore m'habiller. C'est vraiment se peindre, c'est se réinventer tous les jours, c'est s'emporter dans une émotion. J'adore m'habiller, j'adore ça.
Vous nous direz, Romain Bros, qui, à l'aube de la quarantaine, vous a donné envie tout à coup de vous raconter sur scène. On fait le chemin ensemble ce soir et En Marge. Franchement, c'était Bonnie Banane sur France Inter et avec nous ce soir Romain Bros, comédien, chanteur, figure du cabaret de Madame Arthur. Vous avez quel rapport avec la marge, vous, Romain ?
La marge, c'est là où on écrivait en rouge quand j'étais petit. Pour moi, la marge, c'est vraiment un avertissement, c'est un gyrophare. Attention, vous êtes en marge. Et ben, au début, ça me faisait peur parce que tout le monde me disait oui, mais attention, parce que si tu fais ça, tu vas être en marge. Donc, j'avais toujours l'impression qu'aller en marge, c'était quelque chose d'horrible. Et après, moi, je me suis dit tiens, c'est marrant, je vais me mettre sous le radar. J'ai pas envie qu'on me voie, j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai envie de faire mes trucs, gagner un minimum d'argent pour être heureux, être indépendant et faire ma vie. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ça, c'était un petit peu l'underground, la marge, sous le radar, tout ça, c'était la même zone de travail, le travail de soi, et surtout ne pas se ranger, parce qu'être en marge, c'est toujours cette espèce de colonne qui est sans fin, qui va vers le haut ou vers le bas, on décide de faire ce qu'on veut dedans, mais en tout cas, il suffit de voler ou de se laisser glisser. Moi, j'aime bien être en marge, je m'y sens bien.
Et ben vous êtes ici, chez vous.
France Inter. En marge.
Vous êtes né très exactement le 14 octobre 1983.
Dis donc, comment vous y allez, vous?
À la maternité de Nogent-sur-Marne, en région parisienne.
Oui.
Classe moyenne, famille lambda, banlieue ni trop ni pas. Mais justement, c'est ça qui ne vous va pas, Romain. C'est même au-delà. Quand on vous demande, en préparant cette émission, on vous pose un certain nombre de questions. Vous le savez, on vous a demandé quel était le goût de votre enfance. Vous nous avez répondu
le goût vomi. Du vomi.
C'est quand même la première fois qu'on me répond une chose pareille.
C'est
le
vrai.
Goût du vomi. Pourquoi?
Ouais. Parce que j'oublierai jamais, c'était à la cantine, c'était le, j'étais à la maternelle et on m'a servi des choux de Bruxelles. Et l'odeur était tellement immonde et ces pauvres choux de Bruxelles qui normalement sont croustillants et crémeux étaient vraiment bouillis et dégueulasses. L'odeur m'est montée au cerveau et j'ai vomi dans mon assiette. Et ma mère est venue me chercher avec un sandwich au kiri.
Mais ça veut dire que si l'enfance elle a le goût de ces choux de Bruxelles là...
Mm-hmm. Ouais, mais cette assiette de choux Bruxelles résume toute mon enfance à l'école, en tout cas. Ouais. Moi, j'aimais pas ça. À chaque fois, tout était pas beau. Tout avait une mauvaise odeur, avec une mauvaise texture, avec une mauvaise couleur. C'était pas beau. J'ai pas de bons souvenirs de mon enfance. C'est un endroit que j'aimerais vivre en accéléré pour que ça aille plus vite et qu'on passe à autre chose.
Autour de vous, il y a d'abord votre mère, Dominique. Elle est forte, elle est belle, elle est prof de patinage artistique. Et sa reine, à elle, c'est Madonna. Aimer Madonna, ça veut dire aimer danser, ça veut dire un certain sens de la fête, c'est ça?
Ma mère c'est ça que est votre... une fête. C'est ma ça mère est ouais. une fête. Je me rappelle, c'était notre premier appartement et je lui disais toujours, je crois que j'avais 4-5 ans, je lui disais joue la blonde, joue la blonde, joue la blonde. Et j'étais obsédé par elle. Elle avait les vinyles, on mettait ça à fond dans l'appartement et ça mettait une bonne ambiance. Et moi, je sautais sur les canapés, j'adorais ça. J'étais très heureux quand j'écoutais Madonna avec ma mère.
Aux antipodes de votre mère et votre père, Jean-François, kiné, ostéopathe, un métier sérieux, hein, lui pour le coup. Et lui, vous faisait peur. Mais de quoi ?
Mais papa, il me faisait peur parce que c'était la figure masculine, l'autorité. À l'époque, il était, il continuait ses études. Il était dans sa trentaine d'années. Il était à Oxford, en Angleterre, et il passait son diplôme pour être ostéopathe. Avant, il était kiné. Et à l'époque, c'était pas légal d'être ostéopathe en France. C'était un grand sujet. Il était très stressé et c'est ce qu'il voulait faire. Donc c'est quelqu'un qui est très sérieux, qui se battait pour sa vie professionnelle et qui partait souvent. Donc c'est vrai que on était vraiment mon frère et moi élevés par ma mère, les grands-parents qui venaient évidemment. Et je me rappelle quand papa revenait, j'avais pas un rapport très facile avec mon père parce que c'était tout de suite les rapports scolaires, faire des sports masculins comme le tennis. C'était un peu petit bourgeois et confortable et moi c'était pas du tout mon truc. Moi j'avais besoin de folie, de fantaisie, de rêves, de couleurs, de paillettes et j'arrivais pas du tout à l'exprimer avec lui.
Vous avez grandi aux côtés de votre frère, il a 3 ans de moins que vous. C'est qui pour vous ce frère ? C'est un ennemi, c'est un ami, c'est un allié, c'est un...
Maxime, c'était déjà, je pense que c'était la figure parfaite pour mes parents, parce que Maxime répondait à toutes les attentes que mes parents avaient d'un petit garçon. Donc beaucoup d'amis, bon au sport, bon à l'école, des blagues, Maxime ceci, Maxime cela. Et moi j'étais toujours... moi je pense qu'on essayait de parler de moi, mais on n'y arrivait pas parce que je faisais pas vraiment ce que j'avais envie de faire, donc j'étais un peu un terrain sans histoire quelque part. Et Maxime, c'était la seule présence que j'avais dans ma vie. Après l'école, voisin de chambre, on a notre première chambre, c'était des lits superposés, donc des jouets en commun. Mais ces jouets à lui ne m'intéressaient pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les jouets des amis filles auxquels j'avais pas accès. Donc Maxime, c'était mon meilleur ami, mon meilleur ennemi, mon frère et en même temps, je sais pas, nos rapports qui apparemment étaient assez violents pour mes parents me paraissaient complètement normaux. Et c'est vrai que je me rappelle de certaines séances chez le psychologue pour enfants.
Vos parents vous y avaient emmené à cause de ça, à cause de cette violence entre vous ?
Parce qu'ils comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on s'entendait pas. Et pour moi, on s'entendait, mais c'était juste violent, mais ça me paraissait normal. Alors que non, aujourd'hui, je me rends compte qu'avec Maxime, on s'entendait pas et j'étais très violent avec lui. Je voulais lui faire mal parce que j'étais pas heureux, j'étais pas bien dans ma tête et dans ma peau. Et je pense que j'avais besoin de m'exprimer et c'est ce pauvre frère qui prenait tout sur lui.
À l'école, ça se passait comment pour vous ?
J'étais en stand-by, je rentrais à l'école, mon cerveau switchait et je regardais par la fenêtre et je regardais ce qui se passait dehors des classes. Jusqu'au jour où j'ai enfin découvert les cours de dessin. Ça, c'était
ça, c'est autre chose. Parce que pour le coup, vous êtes l'artiste de la famille, vous avez ce talent-là de dessiner. Et tout à coup, il y a un horizon qui se dégage pour vous, mais pour plus tard. Pour l'instant, le talent que vous avez développé à l'école, c'est celui de disparaître.
Oui, absolument.
C'est-à-dire ?
Eh bien, l'horrible sonnette de la récréation, où on va être confronté à la société. Évidemment, on est jeune, mais elle est là. C'est notre société de cours de récréation. Les filles qui jouent à l'élastique, où j'ai parfois le privilège de pouvoir tenir l'élastique pour que les filles puissent sauter dedans. Les jeux de billes, ça m'intéressait pas. J'étais mauvais, je comprenais pas. Je trouvais qu'une bille, c'était joli quand il y avait des pépites et qu'elles étaient nacrées avec des couleurs. Mais j'avais envie de les garder et m'en faire des bagues. Je les mettais entre mes doigts et ça me faisait des bijoux. Mais c'est pas comme ça qu'on joue aux billes.
Comment se comportaient les autres garçons avec vous?
J'étais analysée comme une fille, j'avais un corps de fille, j'étais une peau blanche, un berbe, j'avais des jambes de fille, des mains de fille, j'avais des cheveux roux, donc tout de suite c'était pas du tout comme les autres, j'avais toutes sortes de surnoms, poils de carotte, enfant du diable, tout ce que vous voulez, évidemment quand on est roux c'est pas facile, et puis un jour on m'a donné le nom de Suzanne, et Suzanne ça a été... cette figure féminine sur l'écart, sur les bus de l'école qui nous accompagnait à l'école, enfin pour aller à la piscine. Ouais. Et il y avait ces espèces de profils avec des cheveux en l'air. Et il y a quelqu'un qui a dit « Ah, regardez sur les bus de la piscine, c'est Romain, c'est Suzanne. » Il y avait marqué en gros Suzanne sur les bus. Et depuis lors, bah, c'était Suzanne.
De la fenêtre de la classe, vous passez vos journées à regarder les oiseaux, espérant qu'ils vous prennent et qu'ils vous emmènent loin, très loin. Vous serez actrice ou couturier, un oiseau de paradis, voilà, c'est ça. Mais alors, sous forme humaine, et vous n'aurez pas de limite, non, ça, jamais. Votre vie, un film des années 50 à Hollywood, ou alors non, oui, si, voilà, c'est ça. L'Australie, le désert, Priscilla.
Stop bitching about people, talking about wigs, dresses, bus sizes, penises, drugs, nightclubs on bloody ever.
Doesn't give us much to talk about then, does it?
Voilà, des robes, des pénis, quatre Suédois et un bus dans le désert. On est où?
Ah, on est dans la vie parfaite. Moi, j'ai toujours rêvé de road trip, la fuite peut-être, mais le fait de mettre plein de trucs dans la voiture, des robes, des produits de beauté, des trucs drôles, des amis, de la musique. On ne sait pas où on va, mais on y va, on s'en fiche.
C'est Priscilla Folle du désert. Ouais. Que vous raconte ce film au moment où vous le voyez?
Alors, les rapports de famille, parce que ça parle d'un homme qui va rencontrer son fils, ça parle d'un homme qui va emporter avec lui ses amis, dont une femme transgenre, de la beauté, de la folie, de l'artistique. Il y a beaucoup de créations de costumes, il y a des costumes très très artistiques, qui aujourd'hui sont complètement démodés, mais à l'époque sont vraiment fous. Et ce fameux talon aiguille sur le toit d'un bus qui traverse le désert avec des volants de tissu et la musique à fond.
Oh, vous dites quoi?
Je me dis que c'est moi. Je me dis, mais ça, c'est moi, en fait. Ouais. C'est exactement ça. C'est moi.
Ça veut dire que tout à coup, il y a un modèle pour vous. Tout à coup, il y a...
Une référence.
Une référence.
Ouais.
Qu'il n'y avait absolument pas avant.
Ben oui,
avant, il y avait
reste,
gros point d'interrogation. Et là, il y a...
le domaine du cinéma, donc c'est bizarre aussi. On se dit que c'est pas possible.
Mais
ça fait rêver.
Sur votre table de chevet, à rebours de Huisman, son héros des essaims, ou plutôt son anti-héros, accompagne vos nuits, ce dandy oisif ultra-romantique et décadent. Qu'est-ce que vous auriez de lui?
La solitude et l'extravagance. Parce que on s'invente un monde, on se met loin, on fait venir des gens pour exprimer sa décadence et son extravagance, et c'est une façon de peindre la vie. Aujourd'hui, si on analyse ce bouquin, il fait peur et il est terrible, il est tragique.
Parce qu'il y a une noirceur que je ne sens pas chez vous.
Et pourtant, elle est bien présente en moi, je vous assure. Ouais.
Alors, plus que noirceur, j'aurais dit un cynisme.
Oui, oui, aussi. Ouais.
Aussi, vous l'avez ?
Oui, bien sûr. Parce qu'on m'a fait mal, parce que c'est des douleurs que j'ai pas compris à cette époque, c'est des douleurs que j'exprime aujourd'hui parce que j'arrive à les analyser. Mais je ne suis pas que arc-en-ciel et petit poney, j'ai aussi...
C'est pas ce que j'ai dit.
Oui, oui.
C'est pas ce que j'ai dit, c'est qu'on sent chez vous un humanisme quand même, pas au sens naïf du terme, mais une utopie, un idéal, quelque chose comme ça.
Mais vous savez, c'est marrant parce que quand, à l'école, vers le collège, il y avait un garçon qui était lui aussi en marge parce qu'il était pas très joli, il était disgracieux, il était pas très éclairé, on va dire, et il se faisait taper à l'école. Et c'est marrant, quand c'était lui qui se faisait taper, j'avais... en moi, ça bouillait, j'étais limite heureux qu'on le tape parce qu'on s'acharnait sur quelqu'un d'autre que moi. Et j'oublierai jamais cette sensation parce que je me disais, mais pourquoi est-ce que je souhaite qu'on tape quelqu'un d'autre? Et je comprenais pas pourquoi j'étais d'un seul coup méchant et atroce envers ce pauvre garçon. Et aujourd'hui, voilà, je comprends que ce mal-être devait voyager sur quelqu'un d'autre parce que moi, je m'en sortais pas. Et donc aujourd'hui, on arrive à analyser, mais c'est glauque, quoi.
Vous êtes entré dans l'adolescence et l'adolescence chez vous fait ce bruit-là. Qu'est-ce que ça pourrait être que ça? Sur quoi est-ce que vous avez pu rouler? Qu'est-ce que vous avez fait démarrer?
Ah, c'est mon Solex. Voilà. Ils sont nuls, vos bruits. Alors... J'adore. Ah oui, c'est presque une pétrolette, ça, fraîche. Genre...
Décrivez-nous. Décrivez-nous, vous êtes en Solex, vous êtes avec qui, vous êtes habillé comment, vous allez où, il fait jour, il fait nuit.
Alors c'est génial parce que le Solex, ça raconte plein de choses. Déjà, c'est l'adolescence, donc c'est aussi un moyen de connecter avec mon père. Parce que lui adorait acheter des vieux Solex, des vieilles motobécanes. Il adore les vieilles bagnoles, j'adore ça aussi. Donc on arrive à trouver un endroit où on peut connecter, se raconter des trucs. Donc déjà, c'est la reconnexion avec le père. Le Solex, c'est aussi un cheval de course pour quitter le logis familial la nuit et le pousser et pédaler 3-4 coups et partir en une demi-heure. Je traversais le bois de Vincennes. Je voyais toutes les prostituées dans leur camion, ça me fascinait. Elles étaient pimpé comme jamais et j'arrivais sur la rue de Paris et je traversais la porte de Nation et j'arrivais dans Paris et je regagnais mes amis. Je traversais dans le Marais, j'avais bidouillé une selle de place, donc j'arrivais à mettre un ami derrière moi, deux casques, et on arrivait dans des soirées n'importe où dans Paris et on sortait jusqu'à pas d'heure et je pouvais enfin faire le mur.
Vous êtes arrivé à l'âge où les corps se transforment, signe une appartenance extérieure à un genre ou à un autre. Qu'est-ce que vous diriez de ce moment-là pour vous à cette époque-là? Quels sont vos rapports avec les filles, avec les garçons? Où vous vous situez dans tout ça, dans ce grand chaos qu'est l'adolescence?
Bah, on est dans les années fin 90, début 2000. On me disait androgyne, je me faisais repérer par les agences de mannequins, je commençais à faire des photos dans le milieu de la mode. J'étais valorisé, j'étais sexualisé, les mecs me désiraient, j'en avais peur aussi. Je me disais complètement bisexuel, comme ça faisait plaisir à tout le monde, j'embrassais des filles et je suçais des garçons. Comme ça c'était bien, ça me permettait de voyager un petit peu dans tous les domaines. Et même, puis en plus j'aimais bien embrasser des filles, et j'adorais la compagnie des filles, j'adorais les coiffer, les habiller, ça me permettait d'être un peu plus proche d'elles et de m'en inspirer. Après, ma vie parisienne, quand je dis vie parisienne, c'est vraiment le centre de Paris. À l'époque, le Marais, il n'y avait pas d'application, on se suivait, on se draguait, on allait dans les bars, on se rencontrait comme ça. Et c'était chouette d'ailleurs.
Vous avez échangé votre premier baiser à 12-13 ans, il est brun, il a les yeux verts, il est sublime, vous en tremblez. Et puis voilà Jean-Paul Gaultier, des hommes en jupe, le cinquième élément, Brigitte Fontaine, et vous, fasciné. Brigitte Fontaine, Gaultier, vous, le rapport, c'est quoi?
Brigitte Fontaine, j'ai toujours aimé sa musique et un jour je me baladais dans le Marais et je vois une petite boutique, c'était Libertin Louison à l'époque, c'était un jeune designer belge. Et il y avait Brigitte Fontaine, le crâne rasé, habillée avec une tenue en pied de poule. J'oublierai jamais, hein, ça a duré 2 secondes, mais je suis passé devant cette boutique et je l'ai vue. Et je l'ai vue extravagante, exubérante, à l'image de son art et de sa puissance. Et je me suis dit que c'était une femme qui était libre, qui était drôle, qui était intelligente. Et ses paroles sont sublimes. J'adore sa musique. Cette chanson qu'on vient d'écouter, elle me fait toujours du bien. Et j'adore sa dérision, son humour et... Et elle et Areski sont un couple merveilleux.
Et c'est à peu près à cet âge-là, je crois que vous tombez sur les premiers défilés Gaultier. C'est oui. Ça, vous voyez des hommes en jupe.
Absolument.
Vous voyez cette possibilité, dans tous les sens du terme, possibilité en termes de création, de mode, mais aussi tout simplement humaine.
Ouais, moi, je sortais beaucoup parce que pour moi, la nuit, c'était le seul endroit où on pouvait s'habiller comme on voulait, où on était protégé. Dans le noir, tout le monde était beau. On arrivait à s'asseoir avec des énormes manteaux fourrures, des talons, des robes, habillés en mec, avec de la barbe, pas de barbe, on s'en foutait. Pour moi, la nuit, c'est la liberté. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu les défilés de mode Gaultier, j'ai déjà vu des mannequins androgynes qui ressemblaient à des femmes. Donc, je me suis tout de suite identifié à ces mannequins androgynes et j'ai mis le mot androgyne dans mon vocabulaire personnel, donc ça m'a fait du bien.
Donc là, c'était plus au cinéma, tout à coup, ces modèles-là,
ça arrivait dans la rue, dans les magazines de mode. Et une fois de plus, je veux dire, les magazines, c'était le seul endroit où on pouvait rencontrer la culture, prendre des photos avec nous. Donc c'était important pour moi je chérissais ces magazines, hein. Je les mettais sous mon lit et je les regardais quand j'avais un coup de mou. Ils me permettaient d'avancer et garder espoir.
Vous avez un objectif, c'est la mode, en vivre, y travailler. Alors avec votre travail de mannequin, vous mettez des sous de côté, bientôt vous paierez votre billet. Direction Anvers, c'est l'Académie Royale des Beaux-Arts, la Royal Académie des Beaux-Arts. C'est l'école de mode la plus prestigieuse au monde, la plus difficile d'accès aussi. Vous passez le concours et vous, le mauvais élève, vous l'avez du premier coup. Votre revanche, ça y est, vous la prenez. Et vous vous envolez.
France Inter, En Marge.
It might not be the right time. I might not be the right one. But there's something about us I want to say. Cause there's something between us anyway. I might not be the right one. It might not be the right time, but there's something about us I've got to do. Some kind of secret I will share with you. I need you more than anything in my life. I want you more than anything in my life. I'll miss you more than
les Daft Punk et ce Something About Us vous ramène où, Romain Brault, s'il vous plaît?
Ah, c'est une chanson un peu magique, c'est un sortilège pour moi cette chanson, parce que à chaque fois que j'ai arrêté une relation avec quelqu'un que j'aimais beaucoup, j'ai envoyé cette chanson. Parce que moi, je dis toujours que quand on aime une fois, on aime pour toujours. L'amour, c'est quelque chose de très fort et qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est la chose qui me fascine le plus et qui me fait peur le plus. J'ai toujours peur de tomber amoureux. Et en même temps, je pense que c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver dans notre vie, c'est d'être amoureux et d'être aimé. Donc cette chanson, elle parle d'amour simple et de mauvais timing, de mauvais sentiments, mais qu'on s'aime et que c'est comme ça et que c'est trop beau. Et je trouve que... Il n'y a pas 36 000 paroles dans cette chanson, elle est un peu redondante et elle est très jolie et je trouve que la mélodie est magnifique. Et les Daft Punk ont vraiment apporté quelque chose de très très important à la culture musicale française et je m'en lasserai jamais.
On a quitté Nogent-sur-Marne et l'enfer de la cour de récré. On n'est pas encore chez Madame Arthur, Romain Brault. On reste en marge, évidemment. C'est quand même là qu'on respire mieux, c'est là qu'on invente, c'est là qu'on crée. C'est à Anvers que vous nous embarquez.
France Inter. En marge, Julia Foyce.
Ouais, ça c'est bien, bravo. Ça c'est ça.
Là, vous validez.
Là, c'est le bruit parfait pour résumer Anvers. Ouais. Là, je vous tire mon chapeau, c'est magnifique. C'est très ça.
Vous y passerez 10 ans. Qu'est-ce qui vous accroche tant dans cette ville ?
Cette ville, elle est merveilleuse. Si vous êtes là à nous écouter, que vous ne connaissez pas la ville d'Anvers et que vous voulez vous faire du bien, allez-y, n'importe quelle saison, n'importe quelle heure, Anvers, c'est magique. Anvers, c'est un placard gothique caché. Déjà, c'est une ville qui est très ouverte sur la communauté LGBTQI+. Tout le monde est très ouvert d'esprit. C'est un mélange d'argent, d'agriculteurs, de mode, d'industrie. C'est un des plus grands ports d'Europe. C'est l'Escaut qui traverse en deux une ville qui fait que des bateaux immenses, hauts comme la Tour Eiffel, traversent cette ville. C'est des bruits de bateaux, c'est du pavé partout, c'est de l'humidité, c'est des gens qui sont bourrés à 9h du matin, c'est tout et rien, c'est magique Anvers.
Quel souvenir est-ce que vous gardez de vos années d'études ?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de rire et beaucoup de peur. C'est des études extrêmement dures, c'est des rencontres inoubliables, c'est des amis que j'ai encore aujourd'hui. Je suis parrain d'enfants, d'amis que j'ai rencontrés à Anvers. C'est mon meilleur ami Antonin que j'ai rencontré à l'âge de 14 ans, avec qui on est parti faire cette école ensemble, qui aujourd'hui est encore dans ma vie. C'est tous mes amis qui sont venus me voir parce qu'Anvers, c'était pas cher, on pouvait faire la fête pour 3 francs 6 sous, et c'est des fêtes folles, c'est des défilés incroyables, c'est une école, c'est la meilleure école de ma vie, et c'est 10 ans qui m'ont fait économiser peut-être toute une vie de psychanalyse, je crois.
C'est aussi le moment, je crois, où vous faites votre coming out auprès de vos parents ?
Oui, c'est le fait de pouvoir être loin et de signer des emails « Votre fils PD Romain Brault ».
C'est vrai ? Vous avez fait ça ?
Ouais, j'ai fait ça, parce que je savais plus quoi faire.
Vous leur aviez dit avant ?
J'avais essayé, je l'avais dit, après j'avais essayé de noyer le poisson dans cette bisexualité. J'avais bon goût, alors je ramenais des belles filles, mais je ramenais aussi des très beaux mecs. Les parents voulaient voir ce qu'ils avaient envie de voir, ils étaient un peu perdus, je sais pas, moi aussi d'ailleurs,
Et donc vous leur avez dit comme ça, en signant votre mail, et vous ont répondu quoi ? Ils ont fait quoi ?
Ah, je pense qu'il y a eu quelques mois d'absence.
C'est vrai ?
Ouais, de ma part, de leur part. Mon frère perdu entre les deux, qui essayait de faire bien les choses, qui lui savait, parce que je lui avais dit, il m'avait dit, bah oui Romain, je le savais, je suis pas bête.
Ouais.
Je fais bon, bah formidable. Et puis voilà, on a toujours peur, je pense que quand on est parent et qu'on sort des années 70-80 et qu'on voit son enfant annoncer une homosexualité, on a peur qu'il attrape des maladies qui tournent dans cette communauté. Donc je sais que plus mon père, étant dans le médical, me disait « Fais attention à toi Romain, il y a des choses qui traînent et c'est pas joli ».
Et ils ont mis du temps à l'intégrer comme donnée ?
Alors, ils ont mis du temps à l'intégrer, ils ont mis du temps à le comprendre. Après, malheureusement et heureusement, il n'y a pas que mon homosexualité, il y a aussi mon travail, qui est quand même pas un travail. Je suis pas médecin, je suis pas avocat, je suis pas boucher, voilà.
Oui,
qu'est-ce que je fais dans la vie ? Bah, je suis travesti, je chante, je suis sur talons aiguilles avec des corsets.
C'est-à-dire que vous leur avez pas facilité la tâche.
Voilà, donc je suis un peu lourd à avaler, j'imagine.
Vous apprenez, et puis votre diplôme, vous l'avez. Acheter 800 mètres carrés, un lieu qui fera galerie d'art, café, boutique, catwalk, librairie, c'est possible, vous le faites. Aidé par un vieux russe qui fait du blanchiment d'argent.
Oui. Oh, c'est pas un vieux russe.
À Anvers, ça marche. À Paris, vous en ouvrez 2 autres. Paris, Anvers, c'est bien, c'est pas assez. Vous voyagez dans le monde entier, dénichez des designers, ramenez leurs œuvres à Anvers. À Paris, on est en pleine crise financière, pas grave, vous y croyez, le mojo, vous l'avez.
Back in Nagasaki, I got married to Cho-Cho San. That was her name in those days when I was her man. I've gone back to visit her, but she got a problem. She got a little Cho-Cho. Cho-Cho San was her name, and Mr. Taylor Wolf. Take it away, Cho-Cho.
Qu'est-ce qu'on entend là ?
Là, on entend Malcolm McLaren, un remix qui a été utilisé pour un des plus beaux défilés haute couture Dior par le maître John Galliano, qui est sûrement un des plus beaux défilés pour moi. Et sa poésie, son kitsch, sa folie, son artisanat, comme le sait si bien le faire John Galliano.
Vous n'avez pas 30 ans, quel jeune homme êtes-vous à ce moment-là ? au moment du défilé Galliano, au moment de vos allers-retours entre Anvers, Paris et le monde entier en fait?
Bah, j'ai les cheveux courts, je suis un petit dandy, j'ai des petites moustaches très fines, je porte des kimonos, je porte des robes de femme redrapées avec des jeans déchirés, des Santiago, j'ai des looks complètement fous. Je suis à l'affût de tout ce qui peut m'inspirer. Je suis complètement boulimique d'informations et de culture. J'ai la chance de voyager énormément pour les magasins que je dois alimenter. Donc je fais toutes les fashion week du monde, je suis invité partout, j'ai des amis, j'ai un mec dans chaque fashion week. C'est un peu la folie, cette époque de ma vie, elle est très belle.
Vous êtes libre, vous êtes fou, vous êtes bien partout chez vous. Pourtant, à 30 ans, vous rentrez à Paris. Pourquoi ?
À l'âge de 28 ans... Je sens que quelque chose ne tourne pas rond dans mon corps. Je fais un test de sérologie et je découvre que je suis séropositif. Et je décide de m'armer de tout ce qu'il y a de plus beau, donc l'amour. Et je reviens vivre à Paris pour être entouré de mes parents, de mes amis. Et de me concentrer sur des choses très artistiques, mais plus internationales. Parce que Anvers a beau être une ville extraordinaire, ça reste une toute petite ville belge. Et j'avais eu l'impression d'en faire le tour et j'avais besoin pour moi de rentrer sous traitement. Parce qu'en Belgique, à l'époque, on n'était pas sous traitement. On attendait que les CD4 deviennent alarmants pour passer à l'étape supérieure. Et moi, j'entendais qu'à Paris, on devenait indétectable, donc intransmissible. Et moi, à l'époque, étant séropositif, je n'osais pas du tout faire l'amour avec qui que ce soit. J'avais peur de transmettre le virus. Donc j'étais complètement paralysé. Et moi qui adore... faire l'amour et rencontrer des gens beaux, je me sentais vraiment amputé de beauté. Donc je me suis dit que rentrer à Paris, ce serait une bonne raison pour plein de choses. Et au bout de 3 mois, j'étais devenu indétectable, j'ai pris mon traitement.
C'est fou, ça, oui.
Bah oui. C'était quoi ? C'était en 2013 ? Ouais, 2013, il y a 10 ans.
Et puis ce corps, vous renouez avec doublement, puisque une fois le virus indétectable, vous vous sentez plus libre, et plus libre aussi de performer. Vous aviez cessé de le faire en arrivant, en entamant vos études, et puis à Anvers, et là vous recommencez à performer, c'est-à-dire vous faites quoi de votre corps à ce moment-là?
Bah oui, déjà je reprends confiance un peu avec mon corps, parce que lui et moi on s'entendait pas bien, il était malade et je le comprenais plus. J'ai fait énormément de yoga parce que j'avais lu dans des recherches que le yoga aidait énormément à recentrer les énergies internes aussi, que ça aidait beaucoup le virus à se stabiliser. Donc je prends mon traitement très très sérieusement, je fais beaucoup de sport et dont le yoga. Et je me redécouvre cette passion pour le mouvement, pour la flexibilité, l'équilibre. Ça me rappelle le patinage artistique avec ma mère quand j'étais adolescent et aussi enfant. Et je me dis que mon corps est joli et que je suis à l'aise. Mes cheveux deviennent de plus en plus longs. Je regagne une très grande féminité. Et en fait, je me dis que c'est moi. Et je m'amuse à faire plein de performances.
Et le tout en tenant votre boutique parisienne, vous organisez votre premier défilé, collection unisexe. Évidemment, dans ce lieu où tout se mélange, la poésie, la mode, la musique, la littérature. Et puis voilà, Madame Arthur, dites-nous comment cette institution parisienne rentre dans votre vie.
Bah, c'est une institution parisienne qui renaît de ses cendres.
Ouais. À l'époque, ça n'est plus rien.
Le lieu avait été mis en stand-by pendant 8 ans et le Divan du Monde, qui est la grande salle de concert, avait acheté cette adresse et l'avait tout refaite et donc avait fait de Madame Arthur un très joli lieu, un espèce de bar à cocktail. Et je rencontre un des cuisiniers qui à l'époque travaillait pour le lieu et il travaillait sur le principe de la saucisse de Madame Arthur. Donc ça me faisait beaucoup rire. Je
tout
me dis bon
élégance,
bah voilà tout
finesse,
en finesse. Pigalle bonjour.
Oui.
Et je me dis bah ils me disent mais venez parce qu'on recherche des gens pour recréer l'ADN travesti et du genre dans ce lieu. Donc moi tout de suite le lendemain j'arrive, je me mets un très joli tailleur Mugler, je débarque un soir et je vois ce lieu la nuit magnifique, bien éclairé, tout refait, vert émeraude. Capitonné des rideaux, des franges, volupté, velours, tout ça, on adore. Et je rencontre donc le directeur Fabrice Lafont qui me dit mais faisons un rendez-vous parce que j'aimerais bien peut-être faire vous laisser un carte blanche, faire un speakeasy. Et moi je me dis bah écoutez, vous avez une scène, il y a pas de piano, mais on peut en trouver à 300 balles sur le bon coin. Faut trouver des artistes, faut trouver un pianiste. Moi je vais regarder dans mon carnet d'adresses ce qui s'y passe. Et j'appelle Jérôme Marin qui est un très grand cabaretiste. un super chanteur avec qui je travaillais déjà depuis quelques années. Et je lui dis, écoute, il y a Madame Arthur qui va rouvrir, viens, on fait un cabaret. Il m'a dit, ce serait extraordinaire, il habite à Orléans. Il m'a dit, mais on y va, on essaye. Et donc on a essayé, on a trouvé un sublime pianiste qui s'appelle Charlie Vaudou et qui nous a rejoint aussi. Et puis il y a plein d'autres artistes.
Et ça a cartonné, mais cartonné.
Pas ici... pas de tout de suite, hein, ça a mis quelques années, mais ça cartonne aujourd'hui en tout cas.
Ici vous pouvez tout faire, tout réunir, la danse, le chant, la couture. Boris Vian, Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, vous en saisissez en robe fourreau, fume cigarette, vous les faites vôtres. Et sur Niagara, vous vous éclatez. Pour les gens qui ne connaissent pas Madame Arthur, c'est quoi les gens, l'ambiance, le décor, l'esprit ?
Madame Arthur, c'est un fourre-tout, c'est extraordinaire, c'est un endroit complètement sauvage, qu'on n'arrive pas du tout à contrôler, qui change selon les heures. Dans le début de soirée, c'est un cabaret complètement travaillé, avec un vrai spectacle qui change toutes les semaines. Un peu plus tard dans la soirée, vers 23h, c'est un autre cabaret avec les mêmes artistes, mais là qui est complètement freestyle, on ne sait jamais ce qui va se passer. Ça peut changer du tout au tout, c'est magique, c'est vraiment sauvage. Et quand le cabaret se repose, le lieu renaît avec une folie nocturne qu'on peut trouver que à Pigalle, avec des DJ fous, des jeux, des blind tests, et des artistes cabaret qui arrive, c'est un autre casting et qui vont performer toute la nuit dans différents espaces. Il y a quand même 3 scènes chez Madame Arthur. Il y a 3 théâtres.
Qu'est-ce que Johnny Hallyday vient faire là, dans votre histoire avec Madame
Arthur ? Johnny Hallyday, c'est très drôle parce que bon, moi, en tant que cadeau, j'étais pas trop touché par Johnny Hallyday. C'était un peu les rockers ringards à l'époque, selon mon point de vue à cette époque-là. Mais Madame Arthur nous demande de respecter une seule contrainte, c'est de ne chanter que de la variété française. Et donc, on commence à étudier un petit peu tout. Donc évidemment, moi qui adorais Brigitte Fontaine, je commence avec ça, Niagara, les Mylène Farmer, les Sylvie Vartan, on commence à jouer tous les classiques. Et puis après, on commence à jouer des choses qui, par exemple, pour moi, à l'époque, m'étaient un peu plus ringard. Le Woolsey, le Souchon, c'était des choses qu'écoutaient mes parents. Je les connaissais par cœur, mais ça me paraissait pas drôle. Et on commence à les réinterpréter, à mettre de l'humour, changer parfois même les paroles pour faire changer les messages et les mettre plus au goût du jour. Et d'un seul coup, on nous dit, tiens, qui veut faire la spéciale Johnny Hallyday? Et je me dis, oh, il y a quand même de très très beaux textes. Et même si Johnny, pour moi, c'était pas quelqu'un, pas un artiste qui me touchait, je commence à réécouter ces chansons et je me dis, waouh, les textes sont extraordinaires, c'est très actuel, en fait, c'est beau, c'est magnifique. Et je me rappelle entendre mon père à la guitare, parce que mon père joue très bien de la guitare, et il chantait le blues de Johnny Hallyday. Mmh. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, mes parents sont... Enfin, ma mère était peut-être venue me voir une ou deux fois, très furtivement. Et mon père n'était jamais venu, parce qu'il me disait, oh, tu sais, Romain, moi, te voir en string et en talons sur scène, ça me plaît pas. Et je fais, bon, bah écoute, c'est dommage. Et puis, plus ma carrière avançait, plus Madame Arthur devenait importante dans ma vie. Et plus c'était devenu mon gagne-pain aussi. Et un jour, je me suis permis de leur dire à un déjeuner de famille, je leur ai dit, je comprends pas, vous présentez mémé, vous êtes mes parents, mais vous venez pas me voir au travail, c'est bizarre, c'est mon travail, c'est ma passion, si vous m'aimez, je suis votre fils, il faut venir me voir. Et mon père était très mal à l'aise. Et à un moment, je me suis dit, mais si je fais cette Johnny Hallyday, lui qui chantait cette chanson... toute la musique que j'aime, une chanson de blues qui jouait la guitare, si j'arrive à faire cette chanson-là pour lui, peut-être qu'il comprendra qu'en fait, une fois de plus, comme le Solex, on a des liens, on a des mots-clés qu'on peut utiliser ensemble et se rapprocher. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire cette Johnny Hallyday, je vais leur dire que je la fais pour eux, qu'ils doivent venir, et je vais demander à des amis, à mes parents, qui sont aussi mes amis, Pauline et Bruno, des amis belges d'Anvers, et je vais leur dire, venez à Paris et prenez mes parents avec vous et venez voir...
Et vous avez chanté ?
Et j'ai chanté, et
il s'est passé quoi ?
Et mon père a trouvé ça génial.
Ah.
Ouais.
Romain Bro, vous restez avec nous. On a encore pas mal de choses à se dire. D'ailleurs, on ne pourra pas tout se dire parce qu'avec vous, je pense qu'on pourrait rester des heures et des heures et des heures à dérouler. J'allais dire votre vie, mais non, vos 57 vies. Vous ne bougez pas. On est là, on est bien. À la technique, Claire Levasseur, Lucie Lemarchand à la réalisation, Ophélie Vivier chargée de programmation. Et ça, c'est Mitski sur France Inter. Avec My Love, Mine, All Mine, une programmation musicale signée évidemment Monsieur Djoub, Djoubaka, à retrouver sur l'appli ou le site de Radio France à la page de l'émission.
En marge. Sur France Inter.
Azadine, il est où mon argent? C'est Naomi. Where's my cash, baby? L'argent est où, Terry? Azadine, reprends-moi l'argent.
Une robe corset en sac poubelle, divinement taillée. Vous jouez avec le public et le public se marre. Romain Bro, quel plaisir est-ce que vous prenez?
Ah, j'étais très perturbée les premières représentations quand j'entendais que le public rigolait. Parce que pour moi, ce spectacle, évidemment, il est très très drôle, il fait danser, il fait rêver. Mais je pensais pas que j'allais rentrer dans la tranche humoriste, comme les gens qui font des blagues et des punchlines. Ouais. Pour moi, c'était pas ça. J'ai écrit des choses avec Nicolas Boilamy. On a vraiment travaillé ce spectacle pour qu'on embarque les gens. C'est un message d'espoir, d'amour, plein de choses. Mais je pensais pas qu'on allait faire autant rire les gens.
Eh bien, ça fonctionne, en tout cas. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous raconter? Parce que, entre-temps, on a sauté une étape quand même, mais le succès de Madame Arthur fait que vous êtes repéré par le cinéma.
Ouais.
Votre talent explose pour le grand public dans Les Crevettes Pailletées, qui a fait succès surprise, 700 000 entrées, 600 000 entrées. Et là, l'étape d'après, c'était le One Woman Show.
Bah oui,
qu'est-ce
en fait,
qui vous décide à vous raconter?
Moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est qu'en 3 ans, 3-4 ans, et en plein Covid, j'ai réussi à faire 8 films. Donc, il y a eu plein d'actualités en cinéma, donc je me suis vraiment amusé avec ça. Aussi le théâtre, et d'un seul coup, Live Nation vient vers moi en me disant, Romain...
Donc, Live Nation, c'est une boîte de...
C'est un tourneur mondial.
Voilà, c'est ça.
Et ils m'ont dit, on aimerait te produire ton spectacle, est-ce que tu peux écrire quelque chose? Et je suis parti dans tous les sens, j'avais au début des envies très très hollywoodiennes, très Broadway, ça partait vraiment dans n'importe quel truc. Et après, avec Nicolas Boilamy, donc, on a réussi à écrire un truc inspiré de toute ma vie, et de parler de tous ces messages entre la famille, la maladie, les gens, la danse, la folie, la création. Et c'est ce moment que vous venez de jouer, c'est vraiment un moment où je fais les poubelles et là j'invente toute une vie mode, un défilé de mode dans des poubelles, et c'est complètement abracadabrantesque. Mais voilà, c'est ce qui m'a donné confiance en tout cas à le faire, c'était d'être encouragé par des gens qui font des grandes choses.
Se raconter, c'est se rassembler, c'est aussi laisser une trace pour la postérité. Voilà qui j'étais, moi, Romain Bro, et la suite, et pour l'éternité, c'est Madonna qui va vous accompagner. C'est peut-être la première fois que j'aurais voulu que cette émission soit filmée, parce que Romain Bro connaît absolument toutes les paroles de toutes les chansons qu'on vient de passer. Donc il les mime, il les lip-sync sans aucun problème, il danse et hop, la voix ne sort pas, sans doute par pudeur ou par courtoisie, allez savoir.
Moi, je sais pas ce que je peux faire à la radio.
Vous avez tous les droits, enfin. Me dit celui qui a dit c'est nul, c'est son, mais à part ça, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, pourquoi Deeper and Deeper pour l'éternité?
J'étais à Anvers, toujours à Anvers, donc des moments où on travaille très fort, et en fait, je découvre cette chanson qui fait partie de l'album Erotica, et je me dis, mince, je suis passé complètement à côté de cette chanson, et elle est extraordinaire, elle raconte qu'elle n'arrête pas de tomber amoureux et que c'est toujours de plus en plus profond. Et moi, je me dis, mais c'est la chose qui me fait le plus peur, c'est de souffrir dans l'amour. Et en fait, elle raconte que de toute façon, la plus belle chose qui puisse t'arriver, c'est de tomber amoureux et de tomber encore plus et encore plus et encore plus. Et moi, je me dis, putain, je crois que j'en aurais rien à foutre d'avoir mon cœur qui saigne, de pleurer, de gueuler dans la rue devant des portes qui veulent pas s'ouvrir, devant des fenêtres qui se ferment parce que les mecs veulent plus me voir. Mais moi, je m'en fous. Je gueule mon amour dans les rues et je me suis dit, j'ai une fierté à être aimé. Et enfin, moi, j'ai une fierté à aimer parce que je pense que la plus belle chose qui peut nous rendre le plus beau, bah, c'est quand on aime. Et même si on sait pas bien le faire, et bah, au moins, on peut se féliciter d'aimer. Et moi, j'aime ça.
Alors, Madonna, dans les enceintes, dans les oreilles, dans le cœur et dans la main, un objet qui vous accompagne partout où vous allez, qui vous incarne, qui vous raconte, ce serait, et je vois dans vos yeux que vous l'avez oublié.
Ouais, c'est quoi mon objet? Il y en a plein.
Alors, c'est quelque chose qui, je crois, qui vous rattache à la vie et à la mort aussi, donc à l'amour, quelque part.
Mon traitement, peut-être. Mm-hmm. Ouais. Bah oui. Bah souvent, je m'amuse à faire des maracas, enfin des, vous savez, les tchiquitis.
Parce que c'est une boîte avec 4 pilules, c'est ça?
C'est une boîte avec plein de pilules, il y en a 30.
Ah, il y en a 30? Bah, c'est ouais. 4 jours par semaine par contre, c'est ça?
Voilà, moi j'ai un traitement qui est allégé et je le prends du lundi au jeudi compris. Donc c'est 4 pilules par semaine.
Quand, comme vous, vous avez passé quelques années avec la Camarde là sur, mm-hmm. sur le dos, ça donne quel rapport à la vie?
Ça donne un rapport d'intensité, de vivre à fond, de, vous savez, moi, quand on m'a dit, ah, bah, voilà, Romain Bro, on a une nouvelle pour vous, vous êtes positif. Eh ben, on ouvre des fascicules qu'on vous donne à la sortie de votre rendez-vous médical et on voit des lignes comme vous allez vivre 10 ans de moins, ou vous allez avoir des graisses qui vont se déplacer, vous allez ressembler à quelque chose comme ça et on vous montre des photos. Donc ça fait très peur, surtout quand la beauté c'est si important. Comme ça l'est pour moi. Donc ça peut faire très très peur. Et on se dit, merde, attends là, j'étais mannequin, je baise avec tout le monde, je suis adoré, on fait la fête. qu'est-ce qui va se passer? Bah, on vit à fond. Donc je me suis dit, bon, soit je me tire une balle parce que je suis pas assez fort pour traverser cette étape. Et il en était hors de question parce que la vie est un cadeau. Donc j'ai décidé de vivre à fond. Et voilà, on est face à la sérophobie des gens cons qui sont pas du tout... renseignés, donc on les renseigne. Moi, je préfère partager les informations qu'engueuler les gens parce qu'ils les savent pas. Donc voilà, tout va bien. et on s'éclate, on vit à fond.
Merci.
On danse, on fait la
oui,
fête.
Oui, mais là, on va vous quitter et puis Romain, non. On va aller danser. Voilà, c'est ça. Romain, on se dit quoi? On se dit, on sort, on s'aime, mais on se protège. On fait attention à soi. À l'autre, En Marge, c'est terminé pour ce soir. Romain Bro, vous êtes sur la scène du cabaret de Madame Arthur à Paris tous les jeudis et les vendredis à 20h30. Brûlez-moi, votre single sortira courant mars et l'album Romain Darling est attendu, lui, pour le mois de mai. Plein de bonnes choses à vous
merci
d'ici
beaucoup.
Là. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.